jardinier contre l'érosion avec Aymeric Lazarin.
Bonjour. Alors, merci d'être là. Je vais essayer de parler sans trop bégayer. Je n'ai pas l'habitude de faire des présentations en public. Pour me présenter en deux mots, donc, je suis Aymeric Lazarin. Je suis enseignant en lycée agricole, en agronomie et en biologie végétale. Et j'ai ma propre entreprise d'espace vert et de génie végétal. Donc le génie végétal, ça regroupe toutes les utilisations des propriétés biologiques et ou mécaniques des plantes pour lutter contre des problèmes de société tels que la pollution et donc ce dont on va parler aujourd'hui, l'érosion. Voilà. Donc ce livre, je l'ai écrit à l'issue de plusieurs mois de travail, notamment au CEMAGREF, le CEMAGREF qui est devenu l'IRSTEA, Institut de recherche en sciences et techniques pour l'environnement et l'agriculture. Dans le cadre des recherches qu'on faisait, donc on expérimentait l'utilisation du végétal pour lutter contre les risques naturels, notamment ceux liés à l'érosion. Donc je vais commencer par faire quelques rappels généraux sur l'érosion pour bien mettre au clair et pour voir de quoi on parle d'abord. Et ensuite, on verra concrètement quelques techniques de lutte contre l'érosion qui sont adaptées, bien sûr, pour les particuliers, donc au jardin et au petit terrain. On n'est pas ici dans la lutte contre les risques naturels qu'on peut rencontrer en montagne et dans les massifs forestiers d'Europe. Voilà, alors l'érosion, il faut bien garder à l'esprit que l'érosion, c'est un cycle naturel, c'est un phénomène naturel contre lequel on ne pourra jamais complètement lutter. On ne pourra jamais éviter l'érosion complètement. Par contre, l'enjeu, c'est de la contenir, de contenir l'érosion. Voilà, donc le phénomène de l'érosion, c'est l'usure et l'altération de roches anciennes et la reconstitution en bout de cycle de roches nouvelles. Donc sous l'effet des facteurs météorologiques, les roches anciennes vont être altérées, c'est-à-dire qu'elles vont être usées, les particules vont en être arrachées sous l'effet de l'eau, des précipitations, sous l'effet du gel aussi, gel des gels, notamment en montagne. Mais aussi, on l'oublie souvent, sous l'effet du vent. C'est ce qu'on appelle l'érosion éolienne. Et on observe ça essentiellement en zone côtière ou sur des terrains sablonneux où les particules sont légères et facilement exportées. Voilà, donc ensuite, toutes ces particules s'accumulent. On appelle ça donc les sédiments. Les sédiments sont emportés par les cours d'eau en aval jusqu'à finir leur course dans les mers et les océans, où tous s'accumulent et vont être resédimentés pour reformer de nouvelles roches qui, de nouveau, vont être réexposées, remises à l'affleurement, etc., etc., etc. Donc c'est un peu imagé, mais le cycle de l'érosion, en quelques mots, c'est ça. Donc maintenant, pourquoi est-ce utile et pourquoi est-ce important de lutter contre l'érosion? On a vu que c'était un phénomène naturel, donc on ne pourra jamais complètement lutter, ou complètement l'éviter en tout cas. Mais il faut savoir que dans une étude récente de l'Union européenne, l'érosion fait partie des 10 plus grandes menaces auxquelles sont confrontés les sols des grands bassins agricoles européens. Donc l'enjeu est d'importance. Et la relation entre végétation et érosion, on pourrait la représenter sous la forme de ce cercle vicieux-là que vous avez sous les yeux. Donc au plus un sol est nu, au plus il est dépourvu de végétation et au plus il va être exposé à l'érosion. Donc l'érosion va l'appauvrir, va systématiquement emporter toutes les particules, notamment les particules nutritives. Si les particules nutritives sont emportées, forcément la végétation aura de plus en plus de mal à résister ou bien à s'y installer, notamment les plantes pionnières qui ne pourront pas spontanément s'y installer. Au moins il y a de végétation, au moins le rôle protecteur est assuré. Et comme ça, de fil en aiguille, au moins le rôle protecteur est assuré, au plus le sol est soumis à l'érosion, etc., etc. Et donc dans ce cas-là, dans le cas d'une érosion massive, quand les sols sont nus, il y a de réelles menaces. Donc pour la fertilité des sols, on l'a dit, dans les bassins agricoles ou même dans vos simples potagers. Mais il y a aussi des menaces pour les infrastructures routières, les bâtiments. On connaît des cas où il y a des glissements de terrain et des éboulements qui causent des catastrophes. Donc voilà, donc il est important d'intervenir. Tout l'objectif de l'intervention, c'est donc d'inverser ce cercle, de rompre déjà ce cercle vicieux et de l'inverser à un cercle vertueux qui n'est pas spécialement difficile à comprendre. C'est exactement l'inverse. Si on permet le retour de la végétation, on va assurer un rôle protecteur sur le sol. Donc le sol va pouvoir s'enrichir. Les particules nutritives et tous les sédiments, au lieu d'être exportés par les facteurs météorologiques qu'on a vus tout à l'heure, et notamment par le ruissellement, au lieu d'être exportés, vont rester en place, ils vont s'accumuler, et donc ils vont enrichir le sol. Le sol va s'épaissir aussi, la notion d'épaisseur et de profondeur du sol est très importante. Et donc la végétation va pouvoir s'y installer, d'abord les plantes pionnières, puis au fil du temps des plantes un peu plus difficiles, un peu plus sensibles, qui vont pouvoir à leur tour s'installer. Et on va obtenir ainsi un écosystème riche d'un point de vue de la biodiversité, mais aussi un écosystème protecteur et qui préservera le sol. Voilà, s'il y a des questions sur les schémas, on pourra y revenir ensuite. Donc la première étape, si vous voulez intervenir, c'est d'abord de faire un bon diagnostic. Il n'est parfois pas utile d'intervenir sur toute une parcelle, mais simplement sur des points très localisés. Et pour savoir où intervenir, il y a des signes qui ne trompent pas. Donc là, je vous en ai réuni trois, les trois plus courants, mais il faut savoir qu'il y en a d'autres. Donc le premier en haut à gauche, c'est ce qu'on appelle les piédestaux. C'est-à-dire que les pierres ou les touffes d'herbe, comme on a là, se retrouvent en relief par rapport au reste du terrain. En fait, le phénomène est simple, c'est que toutes les particules qui sont autour de ces obstacles-là, autour des pierres ou autour des touffes d'herbe, sont exportées, sont emportées par l'eau, par le vent. Et ces pierres et ces touffes d'herbe jouent le rôle de protection des sédiments qui sont sous eux. Donc c'est le symptôme d'une érosion massive. Ensuite, à droite, on a l'apparition des ravines. Donc là, c'est pareil, sur les pentes notamment. Dès qu'il pleut fort, on observe souvent des ruissellements et on observe l'apparition de petits sillons. Alors ça commence par des petits sillons de quelques centimètres. On apporte peu d'importance à ce phénomène-là. Mais ça peut vite s'amplifier et devenir menaçant. Il faut savoir que l'eau emporte énormément de sédiments. Et dans des mesures scientifiques, on a observé que dans ces sillons, un litre d'eau pouvait contenir jusqu'à 900 mg de terre. Donc c'est assez énorme. En fait, ce n'est pas de l'eau qui s'écoule, mais c'est une boue chargée en sédiments. Et tout ce que l'eau emporte, c'est les parties nutritives et les parties intéressantes qu'on aurait tout intérêt à garder sur place. Voilà, donc surtout, il ne faut pas négliger l'apparition de ravines si vous avez un talus, si vous avez des pentes autour de chez vous. C'est le moment d'intervenir. Et enfin, le dernier symptôme que je vous ai mis, le dernier signe d'une érosion massive et violente, c'est l'apparition de végétaux avec les racines dénudées. Donc ça, on l'observe souvent sur les berges ou sur les bords des canaux, les choses comme ça. Mais ça s'observe aussi parfois en pente. Donc le phénomène est toujours le même, c'est que l'eau en ruisselant vient dénicher les particules de sol et les parties nutritives. Alors le risque, bien sûr, toujours le même, c'est l'érosion qui s'opère. Mais en plus, il y a une vraie menace parce que l'arbre n'est plus ancré dans le sol. Donc il est fragilisé et il peut facilement s'écrouler dès les premières bourrasques de vent. Voilà, donc tous ces signes-là sont des signes à ne pas négliger et ils doivent vous décider à intervenir. Alors pour intervenir, une lutte anti-érosive efficace, c'est une lutte qui reprend ces trois piliers-là, à savoir le respect du sol, les aménagements sur les points vraiment sensibles et la végétalisation. Ces trois points-là sont complémentaires. Le respect du sol permet une bonne biologie et un sol en bonne santé, lequel sera favorable à l'installation de nombreux végétaux et d'une végétation diversifiée. Intervenir par le biais d'un aménagement permet d'assurer le retour de la végétation, ou en tout cas d'accompagner le retour de la végétation. Et la végétation, quant à elle, est la seule solution durable, presque éternelle, de lutte contre l'érosion. L'avantage de la végétalisation, c'est que comparé aux aménagements et comparé notamment aux techniques de génie civil qu'on a longtemps utilisées, c'est que la végétation se régénère. Et donc, c'est une lutte qui est presque éternelle parce que les plantes ne s'usent jamais et ne se détruisent jamais. Si elles sont bien implantées, elles se ressèment et elles se régénèrent éternellement. Voilà, là, pareil, sur ce schéma, on pourra y revenir si vous avez des questions par la suite. On va reprendre les trois piliers de la lutte anti-érosive. Donc, on va les reprendre en détail, notamment par le respect du sol. Donc, le respect du sol à l'échelle du jardin, c'est tout simplement éviter les pratiques traumatisantes, notamment les passages toujours au même endroit avec la brouette. Ça peut paraître anecdotique, mais ça l'est pas. Pareil, si vous avez une voiture, des choses comme ça, c'est éviter de passer toujours au même endroit et de compacter toujours le sol au même endroit, parce que vous allez le tuer. Vous allez le tuer là où vous passez. De la même manière, ça peut être le cas dans vos potagers ou sur votre terrain, mais ça l'est aussi à plus grande échelle dans les bassins agricoles, c'est le labour. Il faut arrêter de croire que le labour, c'est une pratique vertueuse, parce que ça l'est pas. Et bien au contraire, le labour, il n'y a pas de pratique plus traumatisante que le labour en agriculture. Et on a démontré aujourd'hui, donc ça fait plus de doute, que le labour n'a rien de vertueux. Voilà. Donc même à l'échelle du potager, revendez vos motoculteurs, vous vous en servirez plus, et passez à des techniques alternatives. Voilà. Et simplement, la main pleine de vers de terre, tout simplement pour vous dire que le vers de terre, c'est le bio-indicateur d'un sol en bonne santé. Et c'est les premiers ouvriers de votre jardin. Si vous avez des vers de terre dans votre jardin, vous allez travailler votre terre et travailler votre sol bien moins que quelqu'un qui n'a pas de vers de terre. Donc soignez-les, bichonnez-les, parce qu'ils sont précieux. En ce qui concerne les aménagements, donc on a vu que le rôle des aménagements, c'était d'accompagner le retour de la végétation. Et la nature, en tout cas les matériaux utilisés pour les aménagements, vont être déterminés par le temps d'accompagnement que vous allez vouloir opérer. Au plus vous allez prendre des matériaux naturels et éphémères, au plus vous allez compter sur un retour rapide de la végétation. A l'inverse, si vous pensez que la végétation va mettre du temps à revenir, si vous voulez l'accompagner pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies, vous allez prendre des matériaux qui vont durer plus longtemps dans le temps. Si je n'ai pas été clair, vous allez comprendre. Donc là, les premiers aménagements que je vous présente, ils sont en matériaux écologiques, ils sont en branchage. Le premier, en haut à droite, c'est ce qu'on appelle un fagot. Donc, comme son nom l'indique, c'est un fagot, un tas de branches réunies et serrées entre elles, qu'on va poser perpendiculairement à la pente et qu'on va fixer dans le sol en les traversant de part en part avec des pieux. Ils vont permettre de retenir tout ce qui est emporté par le ruissellement, donc les particules nutritives du sol. Elles vont constituer des obstacles qui vont laisser passer l'eau, mais qui ne vont pas laisser passer les sédiments. Et c'est derrière ces aménagements-là, derrière ces fagots, qu'on va pouvoir revégétaliser, là où les particules nutritives du sol sont retenues. Ensuite, au milieu, vous avez la fascine. C'est un peu le même principe que le fagot, sauf qu'au lieu de réaliser des fagots, pour le coup, on tresse des branches, c'est-à-dire qu'on fait un rang de piquets, de pieux, et on tresse des branches assez souples autour de ces pieux. Pareil, on les place de la même façon, perpendiculairement à la pente, pour que les sédiments puissent venir s'accumuler derrière. Il faut bien sûr que tous ces aménagements soient accompagnés d'une végétalisation. Et enfin, le dernier aménagement que je vous présente en branchage, en bas à droite, il est un peu différent puisque c'est tout simplement un matelas ou un tapis de branches. Donc c'est des branches qu'on garde entières, qu'on pose à plat et qu'on fixe avec des pieux et avec des fils de fer pour bien les garder plaquées au sol. Le rôle de ces aménagements-là, c'est d'éviter et de lutter contre l'impact des forts orages sur la couche superficielle du sol. En général, cet aménagement-là est accompagné d'un ensemencement. On ne va pas mettre en place de végétaux déjà enracinés ou de boutures, mais on va plutôt procéder à un ensemencement. Les graines vont être protégées, prises en sandwich entre le sol. et le matelas de branche que vous avez là illustré. Donc ces aménagements-là en branchage, ils ont une durée de vie assez courte, qui ne dépasse pas 2 voire 3 ans. Donc si on les met en place, c'est qu'on compte sur un retour rapide de la végétation. Si vous pensez que ce n'est pas suffisant, si l'érosion qui touche votre terrain est plus élevée encore, plus forte et plus violente, alors il faut peut-être passer à des aménagements un peu plus durables, c'est-à-dire des aménagements en bois, qui durent 10, 15, peut-être 20 ans maximum. Tout dépend de la nature du bois que vous utilisez et de la façon dont ils ont été traités. Vous avez là, bien sûr, le traditionnel muret de soutènement en bois. Donc, c'est un empilement de poteaux ou de troncs qui ont été posés horizontalement. L'avantage, c'est que c'est très facilement végétalisable et ça peut même être esthétique, comme on le voit sur la photo. Bon, d'accord, c'est, c'est subjectif, mais bon, je trouve que c'est pas pire, on va dire. Ça permet de stabiliser des pentes qui sont assez raides, puisque vous voyez, c'est à la verticale. Ensuite, il y a un autre aménagement qui est très utilisé aujourd'hui sur le bord des routes, ou de plus en plus, c'est le caisson. Alors le caisson, c'est les mêmes matériaux, on travaille avec les mêmes matériaux. Par contre, on peut l'utiliser sur des zones beaucoup plus bouleversées. Là, par exemple, la photo que vous avez, c'est sur les pentes du Vésuve, en Italie. Donc, vous savez que la roche qui compose le Vésuve, c'est du basalte. Et quand elle s'effrite, cette roche-là, ça donne une terre très poussiéreuse et presque stérile, sur laquelle tous les végétaux ont du mal à pousser. Donc là, on voit que le caisson a réussi à retenir pas mal de cette terre poussiéreuse. Le problème, c'est qu'elle a pas été cet aménagement n'a pas été accompagné de végétalisation. Donc les rondins sont en train de se dégrader. Et il n'y a personne ensuite pour prendre le relais. C'est l'occasion de rappeler une fois de plus qu'un aménagement doit obligatoirement être accompagné d'une végétalisation. Donc l'avantage du caisson, c'est qu'il est efficace sur des zones très perturbées. Son inconvénient, c'est qu'il demande beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de recul qu'un muret de soutènement, parce que vous voyez que les rondins sont croisés, et donc on ne peut pas travailler seulement sur la verticale, il faut une profondeur de 2-3 mètres minimum. Et si vous pensez que le bois n'a pas une durée de vie encore suffisante pour accompagner le retour de la végétation, il reste encore la solution des matériaux minéraux, c'est-à-dire de la pierre notamment. Donc là encore, il y a la solution bête et méchante qui est de monter un mur. Alors ça peut être un mur en pierre sèche, ça peut être un mur maçonné. Vous avez plusieurs solutions. Il faut tordre le cou à l'idée qu'un mur en pierre sèche est forcément moins solide qu'un mur en pierre maçonné. Tout dépend de la façon de le réaliser et de la façon ensuite de le végétaliser. Vous avez également les gabions. Le gabion, je pense que tout le monde connaît. C'est une solution qui a été massivement utilisée il y a quelques décennies en génie civil, notamment sur le bord des routes. Aujourd'hui, son utilisation change un peu de secteur. Il y a des grandes chaînes de jardinerie qui vous proposent des gabions clés en main. Et ils ont fait quelques progrès sur l'esthétique du procédé. Et c'est devenu maintenant un véritable accessoire même d'aménagement paysager. Il ne faut pas oublier quand même son rôle premier qui était de lutter contre l'érosion. Donc vous pouvez lier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire monter des gabions dans votre jardin, ça luttera contre l'érosion si vous avez un important dénivelé, tout en l'embellissant si vous êtes sensible à son esthétique. Voilà, là encore c'est facile à végétaliser. Comme vous le voyez, il peut être presque entièrement camouflé par des végétaux couvre-sol. Alors, la durée de vie des aménagements en pierre, là, elle est de plusieurs décennies. Ça dépend de la réalisation, et ça dépend, comme pour le mur en pierre, ça dépend voilà, vraiment de la qualité de la réalisation et de l'accompagnement de la végétalisation. Oui, alors ça dépend du grillage. Aujourd'hui, à l'époque, le gabion que vous avez en photo, c'est du grillage. Aujourd'hui, on fait des gabions qui sont réalisés dans des cages d'acier inoxydable, qui sont le matériau est bien plus épais et donc qui sont bien plus résistants et qui ont une durée de vie pas illimitée, mais voilà, vous m'avez compris. Et enfin, la dernière technique que je voulais vous présenter, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est les éléments préfabriqués. Donc, je ne vous cache pas que c'est un style un peu plus urbain. Ça va bien dans les lotissements, les choses comme ça. Donc, le principe, c'est que c'est donc, des éléments préfabriqués. C'est un matériau mélangé de colle et de sable qu'on empile les uns sur les autres, qui sont faits pour s'emboîter et qui sont creux. Donc au fur et à mesure qu'on monte les rangs, on les remplit de terre végétale de préférence, pour permettre ensuite leur végétalisation. C'est une bonne solution pour ceux qui sont sensibles déjà à son style, pour ceux qui ne sont pas forcément très bricoleurs, parce que c'est vraiment d'une simplicité enfantine à monter. Simplement, il faut retenir que chaque élément pèse une vingtaine de kilos quand même. Donc voilà, il faut ménager son dos. L'avantage aussi, c'est que c'est très facile à végétaliser. Ça peut même être ornemental. Vous voyez qu'on peut mettre des plantes retombantes sur les différents étages. Et par-dessus, on peut également végétaliser. Voilà, ça, c'est des produits qui sont en plein essor et qui sont très appréciés, comme je le disais, essentiellement dans les lotissements. Comment ? Alors, c'est un mélange de colle et de sable. Ça s'achète dans les magasins de bricolage. Voilà.
C'est relativement naturel ?
Non, c'est moins naturel que toutes les solutions que j'ai présentées auparavant. Oui. Alors maintenant, on va aborder la question de la végétalisation. Comme je l'ai dit plusieurs fois, j'ai insisté, un aménagement seul ne vous servira à rien. Ou en tout cas, dans le temps, il ne servira à rien. Donc, chaque aménagement doit être accompagné d'une végétalisation. Pour ça, vous avez différentes solutions. Vous avez la solution de la plantation de plants engodés, c'est-à-dire des arbres déjà bien enracinés. L'avantage, c'est que la reprise va être plutôt rapide. L'inconvénient, c'est qu'il faut s'assurer déjà que ces plants-là soient acclimatés à la zone où vous allez les planter. Si c'est des plants qui viennent de zones méditerranéennes, cultivés de façon intensive sous serre en Italie, ça ne reprendra pas forcément si vous êtes en altitude et dans des zones soumises à un climat assez rude. Donc assurez-vous bien de la provenance des plants. Et le deuxième gros inconvénient, c'est bien sûr leur prix, parce que des plants engodés, ça coûte cher. La deuxième solution, c'est l'ensemencement. Alors, selon les zones que vous avez à végétaliser, il y a un ensemencement à la main qui est faisable, que tout le monde ou presque sait faire. Mais il faut savoir qu'on maîtrise aujourd'hui une technique qui est l'hydro-ensemencement pour les grandes surfaces et notamment les zones inaccessibles. C'est ce qui est utilisé et mis en pratique sur les grands talus des bords d'autoroute, par exemple. C'est des entreprises spécialisées qui viennent avec un camion citerne et qui projettent à coups de lance, un peu comme des lances à incendie, qui projettent une solution qui est en fait un mélange d'eau, d'engrais liquides et de semences. Donc c'est très efficace, c'est très rapide, mais il faut faire appel à des entreprises spécialisées. Et la dernière technique, qui pour moi présente le plus d'avantages, c'est le bouturage. Donc le principe du bouturage, il est assez simple, je pense que vous le connaissez, c'est de récupérer des rameaux sur des plantes qui se bouturent facilement et de les mettre en terre à la bonne époque pour que ces rameaux synthétisent, fassent des racines et donc fassent des nouveaux plants. Donc pour procéder à cette technique, encore faut-il avoir la main verte. Non, c'est pas vrai, c'était une blague. Bon. Les sols, par exemple, tout le genre salix, tout le monde peut y arriver, même ceux qui n'ont pas la main verte, rassurez-vous. Donc le sol, ça réussit à 100%, donc très facile à bouturer, et une alternative au sol, si vous en avez marre du sol. Il y a aussi le cornouiller sanguin qui se bouture très facilement. Et donc, qui marchera pour ceux qui ont le moins la main verte. Après, il faut savoir qu'il y a plein d'autres végétaux qui se bouturent, mais qui nécessitent un peu plus de soins peut-être. Alors, je vais vous présenter justement quelques-uns des végétaux. C'est une sélection que j'ai faite. Donc, on parle de plantes ornementales. J'ai écarté toutes celles qui présentaient un moindre intérêt esthétique. Donc là, je vous présente d'abord le Cities. Le Cities qui est une très bonne plante anti-érosion, notamment du fait de sa rusticité, mais aussi grâce à son système racinaire qui présente un important pivot. Le pivot, c'est une racine principale qui s'ancre profondément dans le sol et qui permet donc au Cities de s'enraciner même sur des terrains très caillouteux et très perturbés, puisqu'on le retrouve dans certains éboulis en montagne, donc il s'enracine sans problème et en profondeur. On surnomme le Cities aussi la pluie d'or en raison de sa floraison, qui, vous en conviendrez, est assez décorative. Simplement un petit bémol sur cette essence-là, c'est une plante qui est extrêmement toxique. Comment ? Envahissante, qui n'est pas classée invasive, mais qui se ressème facilement, effectivement. Et, pardon, j'entends pas. Oui, qui ne craint pas la sécheresse. Effectivement, j'ai dit que c'était une plante extrêmement rustique, rustique en termes de température, qui résiste très bien au froid, et rustique, effectivement, aussi en termes de manque d'eau, de stress hydrique. Voilà. Donc, le bémol que je disais, c'est que c'est une plante qui est toxique. Donc, voilà, un peu de pédagogie auprès des enfants fera pas de mal. Alors, essentiellement les graines. Mais je crois que, de mémoire, il me semble que toutes les parties sont toxiques. Voilà, à vérifier. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas vous présenter le sol. Donc, tout le genre Salix. Comme vous pouvez le voir, il peut être assez majestueux. Son grand avantage, comme on l'a dit, c'est de pouvoir se bouturer très facilement. Donc un simple rameau planté dans le sol à cette époque-là, au mois de février, vous permet d'avoir un plant nouveau dès le mois de mai. Donc tous à vos sécateurs, vous pouvez faire des boutures. Il en existe une très grande diversité. Il y a du sol rouge, du sol noir, du sol pleureur, il y a des grands, des petits, il y en a pour tous les goûts. Et son deuxième gros avantage, c'est son système racinaire qui est très dense. On appelle ça un système racinaire fasciculé parce qu'il est extrêmement ramifié et donc il est très efficace pour tenir les bords de berge, les bords des cours d'eau. Et justement, on croit souvent que le sol aime l'eau, et c'est une vérité, le sol aime l'eau, mais pas seulement. Et c'est assez paradoxal, mais c'est une plante qu'on utilisait quand je travaillais au Cemagref pour fixer les pentes arides des Alpes de Haute-Provence. Donc là où on manque d'eau, là où les étés sont secs et violents, et là où le sol retient mal l'eau aussi. Donc effectivement, le sol peut aimer l'eau, mais il résiste très bien aussi à la sécheresse. Et voilà, pour preuve. Le dernier arbre que j'ai choisi de vous présenter, c'est le sorbier, ou plutôt les sorbiers. Donc là, c'est le sorbier des oiseleurs que vous voyez. Là encore, je l'ai choisi pour sa rusticité, rusticité au froid, rusticité au sec, pour sa faculté à se recéper facilement aussi, c'est-à-dire que si on coupe le tronc, il va rejeter et il va repercer en plusieurs rejets, et donc il va ainsi gagner en puissance et il va jouer ainsi un meilleur rôle anti-érosion. Ensuite, sa fructification n'est pas sans intérêt ornemental aussi. Vous avez aussi son cousin, le sorbier domestique, qu'on appelle aussi le cormier, qui produit des fruits comestibles, qui étaient, il y a un temps, qui étaient consommés. Je ne sais pas si vous connaissez. On faisait là ? D'accord, ok. Voilà, donc il y a un spécialiste, vous pourrez lui demander la recette. Ensuite, dans les arbustes, je vous présente l'argousier. Donc, c'est le champion des cas désespérés, l'argousier. Il pousse aussi bien en haute montagne, là où personne ne résiste, qu'en bord de mer, dans les dunes sableuses. aussi bien dans le sec que dans le lit des cours d'eau. Bref, il poussera là où vous avez tout raté, bah lui il poussera. En plus, il produit d'abondants petits fruits. Alors déjà, ils sont esthétiques, parce qu'ils sont joliment orangés, comme ça. Et en plus, ils sont comestibles, et ils sont très bons d'un point de vue nutritionnel. En plein hiver, c'est vraiment une cure de jouvence. Le plus difficile, c'est peut-être de les ramasser. Donc certains d'entre vous ont déjà essayé. Il ne faut pas qu'ils éclatent dans les doigts, il ne faut pas qu'on se pique, il faut pas... Ouais, c'est pas toujours génial. Donc une petite technique pour les ramasser, petite parenthèse. Surtout s'ils sont plantés chez vous, les argousiers, vous taillez, vous coupez les rameaux qui sont les plus chargés en fruits. Ça permettra de recentrer un peu votre arbre, de le revigorer un peu. Les rameaux, vous les mettez dans le congélateur une nuit. Et le lendemain matin, les billes, elles se détachent très facilement parce qu'elles ont été durcies par le gel. Et donc, c'est sans difficulté. Voilà. Depuis, je refais de la gelée d'argousier. Le deuxième arbuste que je vous présente, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est le cornouiller sanguin. Alors, cornouiller sanguin ou doigt de cornouiller, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de cultivars horticoles qui permettent de décliner notamment la couleur des écorces, parce que c'est pour leur écorce esthétique qu'on les plante souvent dans les jardins. Donc, il est intéressant, comme je vous l'ai dit, pour sa faculté à être bouturé. On réussit presque 100% des boutures. Donc, c'est vraiment simplissime. Et en termes de lutte anti-érosive, il est intéressant parce qu'il drageonne énormément, il s'étale. Donc il a un système racinaire qui va pas très profond, qui fixe pas votre sol très en profondeur. Par contre, sur les 20 premiers centimètres du sol, il va drageonner, il va faire une couverture de racines qui est vraiment très intéressante. Voilà, là encore, il s'adapte à de très nombreux types de terrains. Et il est donc accessible à tous. Le dernier, ou plutôt les derniers, arbustes et arbrisseaux, c'est la famille des labiers, c'est-à-dire c'est la famille des lavandes, thym, romarin, sarriette. Donc ils sont excellents pour résister à la sécheresse, évidemment, et ils sont excellents pour végétaliser tout ce qui est rocaille, pieds de falaise, éventuellement les talus, les éboulis, les choses comme ça. En plus, outre leur intérêt anti-érosif, ils ont forcément un intérêt, vous le savez, un intérêt médicinal et aromatique. Voilà, on passe maintenant aux plantes herbacées que j'ai choisi de vous présenter. Donc bien sûr, l'iris qui est un incontournable aussi, grâce à son système racinaire rhizomateux, qui s'étend assez vite et assez abondamment. Il fixe, comme vous le voyez là, il peut fixer des talus entiers. Donc là, le principe, c'est qu'on a créé des fascines. On a créé quelques fascines. Le temps de réinstaller l'iris, au bout de 2 ans, les fascines ont été dégradées, parce que je vous rappelle que c'est des créations en bois qui ont une durée de vie assez courte. Et l'iris, qui a repris le dessus, a complètement colonisé le talus et a complètement sécurisé la pente. Voilà. Donc l'intérêt ornemental est certain, d'autant que les iris, il en existe une multitude d'espèces. Il y a toutes les couleurs possibles, toutes les couleurs, toutes les tailles. Enfin voilà, le choix est large. Je précise que les iris sont des plantes toxiques quand même. Donc là aussi, un peu de pédagogie auprès des enfants, ça fera pas de mal. C'est l'occasion de les sensibiliser. Une plante qu'on retrouve souvent aussi dans les talus, les rocailles, les pentes, c'est le céraïste cotonneux. Qu'on appelle plus vulgairement corbeille d'argent. Et il faut se méfier parce que corbeille d'argent désigne plusieurs plantes. C'est pour ça qu'on se méfie en général des noms vernaculaires. Donc le céraïste cotonneux, il est capable de recouvrir entièrement un éboulis ou une rocaille. Voilà. Là, pareil, il s'enracine pas très en profondeur. Par contre, il joue un réel rôle de protection, notamment lors des fortes pluies, des orages, parce qu'il fait une couverture totale des couches superficielles du sol. Très facile à multiplier et très florifère. Donc là encore, plein d'avantages. Et enfin, la dernière plante, qu'on rencontrera presque uniquement sur les littoraux, et notamment les littoraux sableux. C'est l'Oya. L'Oya qui est une graminée hors du commun, c'est sans doute notre meilleur allié pour lutter contre l'érosion des littoraux et la disparition des dunes. L'Oya qui est particulièrement adapté justement à cette érosion marine, et notamment l'érosion éolienne, parce que ce qui se passe sur les dunes, c'est que le vent soulève le sable, et entraîné par le vent, le sable joue un effet de criblage, on appelle ça. C'est-à-dire que le sable vient parfois perforer les feuilles des végétaux. C'est pour ça que les végétaux sont si affaiblis et ont tant de mal à pousser. En plus de ça, il ne faut pas oublier les propriétés du sable avec lesquelles les végétaux ont du mal à composer, notamment en raison du manque d'eau. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que l'Oya est particulièrement adapté à ça. C'est l'une des rares plantes qu'il est, d'ailleurs. Et voilà, donc c'est l'une des rares plantes, c'est notre meilleur allié pour l'érosion des dunes et des plages. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de la présentation. Donc je vous remercie. Je vais faire passer un micro pour les questions, pour être sûr de les entendre, si je trouve.
Oui, bonjour. J'ai une question par rapport... C'est une question par rapport au début. Vous avez fait une présentation en fait de l'érosion qui décape tout le sol. Ça arrive jusqu'à la roche-mère. Toute la partie nutritive du sol est partie. Comment vous allez revégétaliser ce sol-là?
Alors, c'est pour ça que les aménagements sont importants. C'est justement pour retenir les particules nutritives. Alors, dans certains cas, vous avez raison. Dans certains cas, l'érosion a été telle que tout le sol a été emporté et qu'on est arrivé à la roche-mère. Ouais. Bien évidemment, s'il n'y a plus aucun substrat pour remettre en place une végétation, il est important d'en rajouter un. Je partais du principe, là, et notamment si c'est le cas, c'est pour les cas des particuliers. Donc en général, on n'est pas encore arrivé à la roche-mère, l'érosion est limitée quand même. Mais il est évident que si on arrive à la roche-mère et que tout le substrat a été enlevé, il va falloir en rajouter un, après avoir bien sûr mis en place des aménagements.
Vous avez montré l'exemple des roches basaltiques en Italie. Là, je pense que le souci, c'était juste retenir le sol pour que ça ne s'érode plus. Mais à mon avis, la revégétalisation n'est plus possible.
Alors, la revégétalisation est possible. Il y a notamment deux espèces qui ont fait leur preuve sur le Vésuve. C'est le genêt d'Espagne et le centrante rouge. Centrante rouge, qu'on appelle aussi la valériane rouge ou la fausse valériane, qui n'est pas réellement une valériane. Mais ces deux espèces-là, d'ailleurs, c'est assez magnifique si vous allez sur le Vésuve vers le mois d'avril-mai, parce que les deux sont en fleurs, rose et jaune, et donc ils couvrent, là où ils ont été réinstallés, ils couvrent une grande partie des pans du Vésuve qui ont été réaménagés. Donc eux sont capables de pousser dans un substrat très poussiéreux et qui est composé presque exclusivement de basalte.
Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas parlé de l'acacia. C'est invasif, mais donc vous êtes opposé.
Alors, ce n'est pas l'acacia, c'est le robinier faux acacia, pour être exact. Effectivement, j'en ai pas parlé. J'aborde le sujet dans le bouquin. J'ouvre le débat. Doit-on utiliser des plantes invasives? Leur caractéristique, c'est justement que c'est des plantes pionnières extrêmement rustiques qui sont capables de se contenter de peu et donc qui pourraient... jouer ou en tout cas représenter une solution contre l'érosion. Après, est-ce qu'on prend le risque d'avoir des effets néfastes sur la biodiversité, sur l'environnement, au prix de la lutte anti-érosive? Voilà, je vous laisse vous faire votre propre avis. En tout cas, j'ai choisi de ne pas le présenter.
Je m'excuse, je ne vais pas pouvoir parler plus fort que ça. Globalement, quand vous habitez depuis plusieurs dizaines d'années et que vous faites un potager dans en pente, mais vraiment une pente importante, je sais pas le pourcentage, quel conseil vous donneriez?
Alors, la première chose, déjà, quand on travaille un terrain en pente, c'est de pas le travailler dans le sens de la pente. Bon, ça, c'est le béaba. Ensuite, c'est d'intercaler au maximum, perpendiculairement à la pente, un maximum d'obstacles. Donc, ça peut être des haies. Après, je comprends que des pluristratifiés, c'est-à-dire avec des arbres, des arbustes et des plantes herbacées, c'est pas forcément, les haies sont pas forcément les bienvenues dans un potager. Par contre, il y a des petites astuces comme, par exemple, intercaler des haies de groseilliers ou de framboisiers assez régulièrement dans votre pente pour éviter que toutes les particules nutritives de l'amont se retrouvent toutes en aval, etc. etc. Ça, c'est la première solution. Ensuite, il y a aussi des aménagements un peu plus traumatisants, comme de faire du terrassement. Voilà. Après, ça dépend... Enfin, il y a des solutions existent. Ça dépend de celle pour laquelle vous optez. Mais déjà, la végétalisation, c'est une grande part de la solution. Il n'existe pas de solution miracle. Donc, ça sera un bouquet de petites solutions qui vous permettront de lutter. Mais il n'y a pas une solution miracle pour répondre à cette problématique-là.
Ma question, c'est comment détruire... alors moi, j'ai qu'une partie du nom de la plante. Ça s'appelle du Japon. C'est ce qu'on trouve au bord des... La renouée.
Oui, renouée du Japon.
Voilà. Alors, comment la détruire efficacement?
Alors, bon, là, c'est un autre sujet. C'est la lutte contre les plantes invasives. Voilà. Ben, mangez-la, j'ai envie de vous dire. Et parce que la renouée du Japon est une plante comestible. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas la manger? La lutter, sinon, plus sérieusement, il y a des études par l'Office national des forêts allemand, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Ils ont des campagnes de lutte, notamment en bordure des cours d'eau, parce que vous savez que la renouée aime beaucoup l'humidité. Donc c'est l'arrachage des plants, de toutes les parties visibles, un arrachage minutieux, et ensuite c'est de recouvrir le sol par une bâche noire, une bâche épaisse, qui va empêcher déjà la plante de rejeter, et en plus qui va amplifier les rayons du soleil, et notamment la chaleur, et donc ça va détruire tout ce qu'il y a dessous. C'est un programme de lutte qui prend plusieurs années, qui est coûteux, qui est pénible, donc c'est sûrement pas une solution miracle. Après, sur les cas des plantes invasives, on s'écarte un peu du sujet, mais sur les cas des plantes invasives, il faudrait se poser la question du problème de fond. S'il y a des plantes invasives, il faudrait se demander d'où elles viennent et pourquoi elles sont là. La renouée du Japon, c'est une plante donc, qui aime beaucoup les cours d'eau, mais qui aime aussi beaucoup les sols riches en nitrates, riches en polluants d'origine agricole. Et si elle contamine aussi bien les bords de la Meuse et du Rhin, c'est sûrement parce qu'il y a un travail en amont à faire, notamment en parlant en termes d'effluents agricoles. Et c'est le cas pour d'autres plantes comme l'ambroisie. L'ambroisie a connu son essor en France, si vous êtes de la région, vous connaissez sûrement le sujet, qui a connu son essor en France au moment des grands travaux du Grand Lyon, notamment de la construction de l'aéroport Saint-Exupéry, je crois. Voilà, on a laissé de grandes surfaces de terre battue sans les aménager, sans s'en préoccuper. Et forcément, ça a été une aubaine pour la plante qui, elle, aime les terrains perturbés. Si on avait pris soin de faire, comme je vous l'ai montré, un hydro-ensemencement, par exemple, on aurait occupé l'espace, entre guillemets, et on aurait évité que la plante prenne une telle importance. Voilà, et c'est le cas comme ça pour toutes les plantes invasives qui posent aujourd'hui souci. Et pour revenir à votre question, ma première réponse, c'était pas une blague, vous pouvez manger la renouée du Japon.
Non. Vous disiez qu'il faut pas labourer, mais pour faire quoi? Parce que la labour, ça arrange, ça abîme le terrain, mais qu'est-ce qu'il faut faire sinon?
Qu'est-ce qu'il faut faire pourquoi? Alors à quoi sert le labour?
Vraiment, la labour, normalement, ça permet de retourner la terre, mais un jardinier qui veut pas.
Oui, mais quel est l'intérêt de retourner la terre?
Oh, bah, je sais pas. Oui, pourquoi il le fait finalement? Oui.
Mais voilà, en fait, c'est ça la question. Oui. C'est pourquoi est-ce qu'on laboure? Alors effectivement, le labour, c'est culte. C'est culturel aujourd'hui le labour et on s'est rendu compte que ça servait à rien. Donc aérer la terre, on sait aujourd'hui qu'une terre qui n'est pas compactée, qui n'est pas traumatisée, qui n'est pas perturbée, on sait qu'elle est bien plus en meilleure santé en tout cas et bien mieux aérée par les vers de terre notamment et par toute la microfaune du sol que par un labour. Parce que le labour, ça va peut-être l'aérer sur le coup, mais ça va détruire toute la biodiversité qui s'y était installée. Ça va détruire tous les équilibres qui avaient pris place. Et donc en fait... sur du moyen terme, c'est dévastateur. Donc le labour n'a plus aucun intérêt. Mais je suis prêt à en débattre s'il y a des opposants.
Les Indiens disaient qu'une terre labourée, c'est une terre à l'envers.
Voilà, c'est assez révélateur, je pense. Oh, on la met sans dessus-dessous.
J'ai pas de terrain en pente, mais j'ai un terrain très argileux. Et il est recouvert d'une couche de mousse, comme ça. Alors, je ne sais jamais quoi en faire, parce que quand je l'enlève, eh bien, il y a rien qui pousse dessous. Enfin, je veux dire, la terre est nue. Donc, je me dis que c'est pas bien de laisser la terre nue. Alors, c'est vrai que j'ai essayé certains endroits l'année dernière. Et du coup, il y a eu des liserons qui ont couvert la terre. Bon. Mais bon, je ne sais pas quoi faire.
Oui, alors, c'est un problème agronomique. C'est sûrement, on a affaire à un sol hydromorphe, c'est-à-dire qui est en permanence gorgé d'eau. Et le fait qu'il soit en permanence gorgé d'eau, ça l'asphyxie. Et c'est pour ça qu'aucune végétation s'y installe, à part quelques mousses. Donc il y a des solutions. Je ne vous les ai pas présentées, mais l'installation de drains et de systèmes de drainage, c'est aussi une solution contre l'érosion. Et c'est des solutions que je présente d'ailleurs dans le bouquin. Et donc si réellement c'est problématique, vous pouvez tout à fait envisager de faire du drainage pour éviter que l'eau soit constamment gorgée d'eau comme ça. Après, il faut savoir qu'il y a quand même des plantes qui sont capables de pousser dans des sols gorgés d'eau et dans des sols hydromorphes. Et notamment le sol aime beaucoup l'eau et les sols gorgés d'eau. Voilà. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez valoriser ce terrain-là.
Alors, pour te répondre, il y a peut-être plus simple. C'est tout simplement semer de la luzerne, comme c'est riche en fer, ça enrichit la terre. Et après, eh bien, on retourne la luzerne, on la remet en terre. Voilà.
Oui. Après, c'est vrai qu'il faudra avoir une meilleure connaissance du cas. Du cas, oui. D'accord, un sol lourd et très argileux. Après, il y a aussi possibilité d'apporter un matériau drainant, notamment de la matière organique qui a des propriétés, c'est vraiment fibreux, ça a des propriétés drainantes qui ne sont pas inintéressantes. Et donc, creuser du côté des amendements. Voilà. Mais là, après, pour les cas particuliers, c'est vrai que c'est compliqué sans voir le site. Ou alors, c'est pour ça que je vous disais, tout dépend de ce que vous voulez en faire et de la façon de le valoriser, mais vous pouvez en faire une mare, une piscine, ce que vous voulez.
Et on remercie Aymeric de son intervention.
Merci à vous et merci de votre attention.